Un très bon début de semaine à vous tous. Merci beaucoup d'être là à l'écoute de cette émission. Nous allons parler de pas mal de choses aujourd'hui. On va revenir sur certaines routes du Québec qui sont malheureusement pas assez sécuritaires. Et depuis plusieurs années, on pense entre autres à la route 158 à Saint-Paul dans la Naudière. Les gens de Joliette qui nous écoutent savent que mercredi dernier, vous en souvenez, il y a deux personnes qui ont encore perdu la vie sur cette route-là. Il y a la 158, mais il y a la 116, il y a la 40, la 169 au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la 20 également. Bref, il y a comme une liste noire des routes dangereuses au Québec. On le sait, le gouvernement le sait, le ministère des Transports le sait. Et je vais vous demander en deuxième heure si vous estimez qu'il est à peu près temps qu'on intervienne. On aura entre autres le maire de Saint-Paul avec nous, Alain Bellemare, qui lui-même a été impliqué il y a quelques années dans un accident qui l'a laissé à moitié paralysé. On va également recevoir Patrick Godin qui joue le rôle, Patrice Godin, du fameux Yannick Dubois dans District 31. On aura l'occasion de parler de ce rôle assez majeur dans sa carrière, mais aussi de course incroyable. Il se lève toujours à 4h du matin pour aller courir dans le fret. Moi, je suis très admirative de tout ça. Mais en première heure d'émission, je voulais qu'on vienne sur les fameuses valeurs québécoises. Et bien sûr, c'est concernant ce fameux projet de loi qui devrait permettre au gouvernement Legault, je dis devrait, puis il faut mettre beaucoup de bretelles après les culottes parce que tout ça va devoir être négocié avec le fédéral, puisque c'est sa juridiction ultime. Bref, le gouvernement Legault a déposé jeudi son fameux projet de loi qui cherche à imposer des tests de valeur et de français aux nouveaux immigrants. Vous savez, on l'a appris, il y a à peu près 18 000 dossiers d'immigrants qui n'ont pas été traités, des anciens dossiers, certains remontent à 2005. Et là, on dit, bon, ceux-là, on va comme les mettre de côté, on repart à zéro. Donc, tous ceux-là, on les oublie. Si vous avez versé de l'argent, on va vous rembourser. C'est un peu particulier, d'ailleurs, tout ce bout-là, parce que... Moi, j'aimerais ça savoir combien il y en a véritablement qui sont déjà arrivés. Ça, c'est des informations, il me semble, qui seraient importantes à savoir. Sur les 18 000, il y en a combien qui sont ici, puis il y en a combien qui attendent chez eux, dans leur pays, qui sont pas encore venus. Je pense que pour ces derniers, mettons que ton dossier d'immigration traîne depuis 2005, j'espère que t'attendais pas que le Québec te donne des nouvelles depuis 13 ans. Sinon, j'imagine que t'as fait d'autres choses en attendant, c'est peut-être moins grave dans ton cas. Mais si t'es un immigrant, que tu travailles, t'es intégré, tes enfants sont même nés ici... Là, ça serait peut-être un peu grossier que de mettre ces dossiers-là de côté. Voyez-vous, c'est pas clair. On peut pas dire les 18 000, on les tasse d'un coup, ou on peut pas dire non plus les 18 000, ben il faut tous les accepter. Il y a peut-être... La vérité est souvent entre les deux. On va voir ce que pensent mes invités de ces tests possibles entre les valeurs québécoises et le test de français. D'abord, c'est quoi une bonne valeur québécoise, hein? D'un bon Québécois qui a des valeurs, c'est quoi pour vous? Je vous poserai la question. Vous pouvez nous appeler au 514-790-9850. Il est historien, il est prof d'histoire au Cégep du Vieux-Montréal, chargé de cours en histoire à l'Université du Québec à Montréal. Gilles Laporte, merci, qui a déjà été grand patriote de l'année. Oui. Donc, on a la bonne personne.
Gardien des valeurs.
Gardien des valeurs québécoises. Tu nous diras quelles elles sont. Martine Hébert est vice-présidente principale à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Merci Martine d'être là.
Merci de l'invitation.
Est-ce que c'est aux employeurs, par exemple, aux PME, de s'assurer que ce soit des bons, qu'ils deviennent de bons Québécois, ces immigrants? Parce qu'on parle ici d'une immigration économique, n'est-ce pas?
Mm-hmm. Oui, tout à fait. C'est ce que j'en comprends moi aussi, effectivement. Et vous avez fait bien de poser la question parce que dans le projet de loi qui a été déposé par le ministre Jolin Barrette, effectivement, il y a des choses qui pourraient laisser croire que les employeurs pourraient avoir une responsabilité là, dans l'éducation aux valeurs et à la francisation. C'est sûr qu'on va aller en commission parlementaire là, dans le processus pour essayer de voir là, avec le ministre quelle est son intention réelle et s'assurer que ce ne sera pas le cas parce que moi, je dis que c'est pas aux employeurs à informer les gens ou à les former là, sur les valeurs québécoises. Là. Je veux bien, mais c'est comme à un moment donné qu'il y ait des mesures de francisation, par exemple, en entreprise ou des choses comme ça, ça je veux bien, mais que les employeurs aient la responsabilité là, de former les gens aux valeurs québécoises, je pense que ce ne serait pas du tout une bonne idée.
Alors, touchons le cœur de ma question, venons-en au cœur du problème. C'est quoi une valeur québécoise? Tiens, je parlais à des amis en fin de semaine, je me disais, OK, on va faire la liste des valeurs québécoises. Ouais, ouais. Le ministre nous a quand même aidé un peu, il est revenu sur certaines valeurs évidentes, voilà. Gilles?
Oui. Bien sûr. Effectivement, on ressort toujours les mêmes, puis à raison, là. La première étant, disons, la capacité à s'exprimer en français, seule langue officielle au Québec. Et par ailleurs, là, la fameuse égalité homme-femme, là, décrétée d'ailleurs, qui est présente dans la Charte des droits et libertés, etc. À partir de là, en général, les commentateurs bafouillent. Et pour cause, parce que on embarque...
Bon, essayez de pas trop le faire.
Oui, soyons clairs. Première chose, je m'objecterais. Oui, c'est la responsabilité des employeurs, comme c'est la responsabilité de tout le monde, OK? Alors, il y a un proverbe qui dit « ça prend un village pour élever un enfant », mais je pense que ça prend un village pour intégrer un immigrant.
Oh, c'est bien dit.
Ça prend une communauté, ça prend des collègues de travail, ça prend bien sûr un patron, mais ça prend aussi des services gouvernementaux. En règle générale, lorsqu'on remet ça dans la cour de l'État, là, les fameux COFI ou des cours d'intégration où d'ailleurs personne n'est forcé d'aller, c'est pas une réussite. Il faut que l'ensemble de la communauté se prenne à partie prenante de ça. Puis notamment en région, ils le font beaucoup mieux qu'à Montréal où les gens sont un peu plus laissés à eux-mêmes. Revenons à votre question. Donc, des valeurs. D'abord et avant tout, là, on a le droit de faire ça. C'est-à-dire, on entend les commentaires du fait, oh, mon Dieu, qui sommes-nous pour pouvoir demander aux autres ou à nouveaux arrivants d'avoir des valeurs? Mais oui, nous sommes ceux qui sont déjà sur place. Ouais. Nous formons une société. Nous avons atteint un équilibre. Nous avons atteint un niveau de cohésion à qui est jamais facile à maintenir. On voit les débats divisifs dans notre société. Ouais. Sommes-nous en droit de demander que ceux qui arrivent puissent jouer la partie avec nous? C'est-à-dire qu'ils maîtrisent les règles du jeu pour pouvoir ensuite apporter leur couleur, leur point de vue, mais à tout le moins en respectant, puis à tout le moins en connaissant les règles du jeu.
Mais c'est intéressant de présenter comme ça, je trouve, Martine.
Ben, c'est intéressant, oui, parce que, mais en même temps, on peut se poser la question, c'est pas parce qu'on va éduquer les gens aux valeurs du Québec qu'on va les informer sur les valeurs québécoises qu'ils vont les épouser, ces valeurs-là, hein, parce que être informé de quelque chose et épouser quelque chose, c'est deux choses.
Ouais. Donc, mais c'est pour ça que selon le projet, à l'époque, là, en campagne électorale, on se souvient, la CAQ avait dit, on va imposer aux nouveaux arrivants un test de français. Ça, on comprend, je pense que il y a quelque chose de presque... tout le monde est d'accord là-dessus.
Encore faut-il,
une espèce de consensus là, que c'est correct.
Encore faut-il que le test de français soit raisonnable, là, parce que les tests de français, à l'heure actuelle, il y a même peut-être beaucoup de Québécois qui ne seraient pas capables de le passer. Il faut pas, ouais. Faut que le niveau de difficulté là, soit raisonnable quand même.
Quant au test des valeurs québécoises, ils disaient au bout de 3 ans, on leur ferait passer ce test-là. C'est pas tout de suite, c'est au bout de 3 ans, on vérifie est-ce que tu es bien intégré finalement. Est-ce que c'est comme un test d'intégration de ce que je comprends. Mm-hmm. Mais là, depuis qu'ils sont au pouvoir, on a eu peu d'informations supplémentaires.
C'est plus nébuleux dans le projet de loi, là.
C'est très flou, finalement.
C'est ça. C'est pas si clair que ça. Puis on comprend que il y a beaucoup de choses qui vont être décidées par règlement, là, tu sais. Mais moi, c'est la question des tests, là où la perspective des employeurs, je vous dirais, Isabelle, est importante, c'est de dire, qu'est-ce qui va arriver avec ces personnes-là si elles ne passent pas le test? Et ça enlève de la prévisibilité pour les employeurs qui ont besoin de ces travailleurs-là, qui les intègrent, qui les forment dans l'entreprise. Il y a des coûts, pour l'employeur à former ces travailleurs-là, à tout ça. Puis là, dans 3 ans, oups, s'ils passent pas le test, est-ce qu'il va le perdre parce qu'il va être obligé de partir? Et ça, là-dessus, on va poser des questions aussi parce que faudrait pas que ça enlève là, justement de la prévisibilité et que les investissements que les employeurs vont avoir mis dans ces travailleurs-là là, tombent à l'eau parce qu'ils ne cadrent pas dans des tests supposément de valeur ou d'autres.
Puis si on regarde ça de la lorgnette de l'emploi, il y a des secteurs d'emploi, je pense, par exemple, secteur minier, où tes travailleurs n'ont pas forcément besoin de maîtriser de 9 à 5 un français.
Non, c'est ça.
Plus qu'acceptable. Exactement. Est-ce que c'est pertinent dans ce cas-là? Alors que si c'est un professeur de cégep, Gilles, on comprend que là, il faut qu'il y ait minimalement un niveau de langage pertinent.
Donc, c'est être cuisinier ou que tu travailles dans un hôtel à l'entretien.
Fait que si c'est les mêmes tests puis les mêmes règles pour tout le monde, est-ce que c'est logique, d'après vous, Gilles?
C'est crucial, le français, parce que c'est ce qui est
où la porte. Le même niveau pour tout le monde?
Non, pas le moins du monde. On a parfaitement raison de faire les nuances qui se passent. Mais la question des valeurs par rapport à l'adhésion aux valeurs, c'est complètement différent. Parce que si je faisais passer, effectivement, vous avez raison, puis les auditeurs sont sûrement d'accord, si on faisait passer un authentique test des valeurs à tous les Québécois, on aurait des taux d'échec, puis on n'en a pas à avoir honte. Nous formons déjà une société plurielle qui présente déjà des grandes différences. Je vous rappelle qu'il y a bon nombre de Québécois qui ne maîtrisent, et de Canadiens reçus, qui ne maîtrisent toujours pas le français. Et ça les empêche pas de participer à la vie civile. Ce qui est important ici, c'est simplement d'offrir le maximum de chances à ces gens-là de réussir leur intégration et puis de pouvoir enrichir rapidement la société québécoise.
Tout à fait d'accord.
Et à partir de là, le français obligatoire, en fait, la question est le français prioritaire. C'est-à-dire en tête tête de liste là, pour pouvoir éventuellement s'ouvrir aux autres valeurs québécoises, à tout le moins maîtriser l'outil de communication. Ouais. C'est tout. Et ça, ça va se faire progressivement, ça va de soi. Toujours la question, est-ce qu'ils connaissent le français avant d'arriver? C'est très délicat. À ce moment-là, on discrimine des pays, on exclut l'Amérique latine de toute la pratique. Et on
est très élitiste.
Hein? Ah oui, voilà. Donc, c'est induire des choix à propos de l'immigrant qu'on veut faire venir. Mais en revanche, la maîtrise minimale, par exemple, un petit cours sur place avant de poser sa candidature. Il y a plusieurs pays qui le font, dont le Japon notamment, mais aussi l'Allemagne.
Japon, là, tu disais, au Japon, vraiment, il faut maîtriser la langue du pays en 3 ans. Voilà. Puis au bout de 3 ans, si tu ne la maîtrises pas, qu'est-ce qui t'arrive?
Non, c'est l'exclusion.
Ah, oui.
C'est-à-dire.
Donc, ça existe.
Clarifions cette question-là de l'exclusion, parce que ça fait peur à beaucoup de gens. Tous les pays du monde ont des tests d'adhésion à citoyens. Tous, sans exception. Le Canada y compris. Je vous rappelle qu'on a un test à passer. Il faut même faire un serment d'allégeance à la reine.
Qui est très difficile, d'ailleurs.
Faisait avec l'équipe ce matin. Je pense qu'on l'a coulé, les amis. C'est pas drôle.
On fait des tests, on passe des tests, et on les coule. Et si on les coule, il faut avoir 75 quand même, là. C'est plus qu'au secondaire ou au cégep. Il faut avoir 75. Le passé. Et si on le coule, on est sous le coup d'une expulsion possible. Mm-hmm. Mais toutes sortes de manières font en sorte que ça ne se produit pas. Donc, à la limite, il faut cesser. Il y a une sanction, il y a une conséquence, il y a un impératif de réussir son test. Mais au-delà de ça, tous les pays en font un, mais ils se cassent tous la tête là-dessus.
Question, OK, qu'on a pris sur le test de citoyenneté canadienne là, pour réussir l'examen. Il y a une des questions, il y en a 20, là, mais une qu'on a trouvée difficile, entre autres, parce qu'on n'avait pas forcément la réponse. Pendant combien de temps le titre de Dominion du Canada fut-il officiellement utilisé? A, 100 ans, B, 50, C, 200, D, 250.
Aucune idée.
C'est pas Martine?
Ben non.
Gilles doit le savoir.
Ah, c'est un historien.
Normand, Isabelle, vous aviez dit quoi déjà? Vous aviez dit quoi? Vous aviez dit 50? 100? T'avais dit 100? Et la réponse, Gilles?
Ben, en fait, c'est 98. C'est en 1965, là, avec l'adhésion, le drapeau canadien.
Arrêtons!
Oui. Puis finalement, c'était avec l'Expo 1967, le centenaire de la Confédération, on a ratifié le nouveau nom du Canada. Et c'est très technique, effectivement.
Mais le titre de Dominion du Canada?
C'est devenu le Canada.
Pendant combien de temps? On l'a utilisé 100 ans, c'est ça?
Exactement.
C'est ça, 1867 à 1967. Bon, peut-être qu'on l'aurait eu, là. Mais il y en a d'autres aussi. Il y en avait d'autres. Je vous en dis d'autres après la mort.
On va-tu t'expulser?
Ben, écoute, toi, t'es-tu immigrante, non?
Non.
Toi, t'es de souche, toi aussi, Gilles?
Depuis cette génération.
Québécois. Hey, la seule qui est à risque ici, c'est moi. Fait que je vais tenir ça mort pendant la prochaine heure. Non, mais je suis officiellement canadienne et québécoise. Je tiens à rassurer tout le monde. J'ai mes papiers. 514-790-9850. Sans frais, vous pouvez nous joindre en faisant le 1-866-790-9850. Dites-moi, d'après vous, là, c'est quoi une bonne valeur québécoise? On a parlé du français, là. Ça, c'est une valeur. On a parlé de l'égalité homme-femme. Il y en a d'autres, certainement. On les cherche pour être capable de les dire aux autres. À tout de suite, tout le monde. Alors, on s'interroge ce matin sur les valeurs québécoises. Quelles sont ces valeurs que devrait posséder tout bon immigrant au Québec? On a parlé tout à l'heure avec mes invités. Je vous rappelle, Gilles Laporte est historien. Il nous disait que le français, tu l'as mis dans cet ordre-là, Gilles. Pour toi, c'est la première valeur importante à maîtriser. Martine Hébert est vice-présidente principale à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Madeleine, vous en pensez quoi, vous?
Oui. Bon, les valeurs humaines sont tous les mêmes pour n'importe quel pays. Ça va à l'évidence.
Comme par exemple?
Une valeur, c'est de... Premièrement, pour moi, c'est d'être dans l'accueil. Pourquoi que je dis ça? C'est parce que quand on vient ici au Québec, on n'est pas en danger, on est en sécurité. Fait que, qu'est-ce qui peut attirer ces étrangers-là? C'est notre ouverture, notre calme, notre paix, on a ça dans nous. Fait que pour moi, ça, c'est une très grande valeur. Et moi, je connais des employeurs dans le Chaudière-Appalaches. J'en ai deux exemples. Qu'ils ont invité des gens à venir travailler chez eux et toute la communauté a mis la main à la pâte parce qu'ils ont trouvé des maisons, des logements, m'ont fait des cours de cuisine, en tout cas, toutes sortes de choses. Et tout le monde, il n'y a pas de ghetto. Quand on est en région, il n'y a pas de ghetto. Parce que les gens sont obligés de fraterniser tous ensemble dans la journée de l'accueil, parce qu'il y a une journée de l'accueil de ces personnes nouvelles, québécoises. Et parce que aussitôt que tu es ici au Québec, elle devient un Québécois. Fait que moi, je suis arrivée dans cette région-là, et je n'étais pas de cette région, et on m'accueillit aussi, voyez-vous, là. J'étais une personne d'ailleurs. Fait que
d'une autre région du Québec, c'est ça?
Oui, oui.
C'est ça, mais c'est intéressant que vous soyez d'une autre région du Québec, que vous soyez d'une autre région du monde. Dans le fond, ce que vous dites, la valeur de l'accueil est importante.
Mais je trouve que c'est
l'hospitalité. Ouais.
Oui. Le deuxième, j'ai un autre endroit qu'ils ont accueilli ça et ils ont tout détruit. Parce que ils ont tout détruit, les appartements, les maisons. Ces immigrants-là n'ont pas, ils se sont pas intégrés parce qu'on les a mis toutes dans la même place, puis on n'a rien fait. C'est à peu près pas tellement plus loin. Mmh. Et moi, qui est une personne qui vient d'une région Saguenay, on va dire, c'est ma région. J'ai étudié à Montréal, à l'université. J'ai pas retourné parce que j'ai fait des études assez hautes et je n'ai pas retourné dans ma région. Et quand j'ai arrivé pour faire des emplois, les employeurs, coudonc, madame, moi j'ai 70 ans, me disaient « Pourquoi tu retournes pas dans ta région? » C'était des Montréalais qui me disaient ça, que j'avais pas de place ici, voilà 30 ans.
Ah ouais, mon Dieu.
Je l'ai vécu à plusieurs reprises.
Ah, ça m'étonne pas, Marc. Ouais. Ah ouais. Mais c'est
oui,
dommage. C'est,
ouais. Ouais. Pourquoi tu vas pas faire ta profession de médecin ou ci ou ça au lac Saint-Jean? On n'a pas besoin de toi. Et madame, c'était des personnes de haut niveau, assez importantes, et j'ai toujours trouvé que les Montréalais étaient racistes. Parce que ça a été difficile de me faire une place, mais je l'ai fait et je me suis dépassée. Ça m'a fait me dépasser, puis j'étais une des meilleures dans ma profession. Fait que, gars, moi, là, la division, là, je ne suis pas d'accord.
Merci.
On n'est pas des gens qui divisent.
Merci beaucoup, Madeleine, de votre témoignage. On retient hospitalité, ouverture, accueil. Blaise est avec nous. Bonjour, Blaise.
Bonjour, Madame Maréchal.
On comment vous écoute. Ça va très bien. Allez-y.
Moi, je parle d'abord par le français. Il faut distinguer les immigrants. Il y a des immigrants francophones. Et madame, comment elle appelle, l'écrivain, elle a dit plusieurs fois, Denise Bombardier. Nous qui avons étudié de l'école primaire jusqu'à l'université, quel français on veut nous avoir? J'ai un journal de mercredi 29 août 2018 où il n'y a aucun immigrant dedans et tous ce sont des replacés d'ici et des fautes, on n'en peut pas en parler. Je prends par exemple Christine Saint-Pierre qui écrit. Nous sommes fiers de faire partie de la meilleure équipe. Ça ne se dit même pas. Nous sommes fiers de faire partie de la meilleure équipe. Elle n'a même pas mis eux. Elle n'a même pas mis deux.
Ouais. Merci, Blaise.
OK? Ouais. Non. Laissez, je vais y aller.
Ouais.
François Bonnardel, qui écrit « Qualité de vie libérale, pas deux, à libéral. » On a Véronique Yvon. Il n'y a aucun immigrant dedans. De quel français vous parlez?
Ouais.
Nous avons étudié le français. Il y a Vincent Maréchal ici, qui est un journaliste. Ce sont les gens-là qui nous font la loi à l'Assemblée, qui écrit « Si j'étais États-Unien, ça ne se dit pas, madame.
» Ben, disons que maintenant, on le dit pour décrire les habitants des États-Unis. Merci beaucoup, Blaise. Mais ça, sur le français, bon, je pense que notre ami Blaise a raison de dire que parfois, on a le français...
Il a quelque chose, ça évolue. Ben, les valeurs évoluent.
Ben, ce qu'il dit, c'est avant de demander à l'autre de montrer patte blanche, fais-le donc toi aussi. C'est-à-dire, toi-même, si tu fais passer un test de français, es-tu capable de répondre aux questions? Si tu fais passer un test pour devenir citoyen canadien, es-tu au moins capable de répondre aux questions? C'est pas fou comme
approche. Puis est-ce que tu poses les bonnes questions?
De
savoir l'histoire du Dominion, c'est peut-être pas aussi important que de comprendre certaines notions qui découlent de nos chartes.
Qui est le chef d'État du Canada? A. Sa Majesté la Reine Elisabeth II. B. Le gouverneur général du Canada. C. Le premier ministre du Canada. D. Le lieutenant-gouverneur du Canada.
La Reine.
Ben, tu viens de nous répondre tout de suite. Là, je voulais qu'il y ait un certain suspense. Mais ça, je pense qu'on le sait. On sait-tu que la reine est notre chef d'État?
Ah, là, vous seriez étonné. Bien sûr que non.
On le sait pas.
Oh non, bien sûr. Puis d'ailleurs, on fait tout pour nous le cacher en règle générale. Sauf que l'immigrant qui arrive, lui, il doit le savoir.
Ouais.
Et ça, c'est toujours impressionnant. Quiconque a traversé la cérémonie de la citoyenneté a vu le décorum, là. Quiconque n'a pas connu ça ignore, là, qu'il y a un cérémonial avec cornemuse et kilt écossais et où on a le serment solennel à la reine. Les gens sont dans l'ignorance que le Canada impose déjà.
Moi, j'ai levé ma main pour la reine. à l'époque.
Ben voilà.
Ben ouais.
Ça a généralement marqué les nouveaux arrivants, ouais, à cet élément-là. Parce, ouais, que tester des valeurs, c'est toujours difficile. On parlait, ouais, de l'accueil, tout, on en est. Mais comment allons-nous valider ça auprès,
c'est
de
ça,
gens?
Ben
on a 50
ça,
000 dossiers à traiter par année. Est-ce qu'on va commencer à leur faire un interrogatoire, tester la sincérité de leurs réponses? C'est pour ça que la plupart des
difficile.
Pays s'en tiennent à des tests de réponses comme ça.
Ouais.
Des tests à questions multiples qui ne veulent pas dire grand-chose.
Qui ne mesurent pas,
bon,
vraiment.
Si vous me permettez l'expression, c'est un peu comme quand Internet, on nous demande « Êtes-vous un robot? »
Ah ouais.
Ça revient un peu à ça. C'est-à-dire, ouais, c'est un test minimal, balisé, normatif.
C'est ça. Mais où on peut tester.
Qui ne vérifie pas la sincérité, l'intensité du désir d'agir.
Non, mais ils peuvent tester, par exemple, probablement certaines connaissances. Comme beaucoup de valeurs découlent de la Charte des droits et libertés. Hein? Il y a énormément de valeurs. Il y a des valeurs culturelles comme l'hospitalité, mais il y a aussi des valeurs là, qui découlent de la Charte, l'égalité, la liberté d'opinion, de religion, d'expression, le droit à l'intégrité, le droit à la sécurité, etc., etc. Donc, ils peuvent peut-être aller poser des questions. Est-ce que la charte prévoit telle chose ou ce genre de questions-là? Mais ça demeure factuel.
Mais est-ce que ce serait anti-charte, ces tests-là?
Absolument pas. Non. C'est tout à fait légitime. mais la plupart des pays se cassent la tête à l'heure actuelle. La Grande-Bretagne, on sait avec le Brexit, puis ils ont une grande réflexion là-dessus, a renouvelé, refait son test de citoyenneté. Elle pose maintenant des questions concernant l'histoire. En quelle année se déroule la victoire de Trafalgar? C'est écrit comme ça.
En quelle année?
En 1805.
Ah, merci.
Mais Amiral
Nelson. On se couchera moins les yeux. J'adore ça, les tests de connaissances.
Mais il y en a aussi où on demande de répéter le début de l'hymne national britannique, le God Save the Queen. Ah, mais c'est ainsi que c'est quand même un test de questions, réponses multiples. Mais il demeure que c'est ainsi qu'on chemine vers des valeurs. En fait, c'est un peu puéril. La vraie question, c'est avons-nous des individus qui vont éventuellement adhérer aux valeurs?
Ben, c'est ça, la vraie question, c'est l'intégration. C'est, voilà, à quoi ça sert tout ça? C'est favoriser une meilleure intégration des personnes qu'on accueille.
Je pense que c'est ça aussi derrière ça.
Tout à fait.
Je pense que c'est ce que
veut
faire le gouvernement.
Absolument.
On va revenir. Il y a Hamid qui veut prendre la parole. Si vous voulez, bien sûr, vous joindre à notre discussion, nous donner votre opinion là-dessus. On cherche les valeurs québécoises, des valeurs qui sont bien québécoises, que devrait posséder tout bon immigrant qui veut vraiment venir ici et s'intégrer dans la société. Vous pouvez nous joindre dans la grande région de Montréal en faisant le 514-790-9850 et sans frais partout ailleurs au Québec. Vous faites le 1-866-790-9850. Quelles sont les valeurs québécoises que devrait posséder tout bon immigrant? Vous pouvez nous joindre en faisant le 514-790-9850 pour nous dire, d'après vous, quelles sont les valeurs qu'on n'aurait pas touchées pour l'instant. On a parlé de l'importance d'être vraiment francophone de cœur, c'est-à-dire de parler le français. On a parlé de l'hospitalité, de l'accueil. On a parlé, bien sûr, du respect, de la compréhension, de la valeur, de l'égalité des sexes, de la parité. Ben, égalité, parce que parité, c'est un autre dossier, puis c'est pas clair encore. On a Hamid avec nous. Bonjour, Hamid.
Oui, bonjour.
Qu'est-ce que vous rajouteriez, vous, comme valeur qu'on n'aurait pas abordée encore?
En fait, c'est des valeurs universelles, si vous voulez. C'est pas juste des valeurs québécoises. L'égalité homme-femme, la démocratie, la liberté d'expression, parler la langue, etc. Moi, ce que je voulais dire, c'est que sur le principe, oui, je suis d'accord avec le gouvernement, mais je suis en total désaccord avec la façon de faire. Je vous explique. On veut que les gens épousent les valeurs et parlent la langue du pays. C'est normal, quand on émigre dans un pays, il faut parler la langue, au moins. Mais attendre 3 ans pour faire les tests et après la personne elle échoue, on dit tu dois rentrer chez toi, ça c'est injuste. Ouais. Pourquoi ne pas faire passer des tests, tout ce qu'on veut qu'on teste, quand la personne est encore chez lui ou chez elle. Donc, passer les tests, rentrer dans la grille de sélection, tout ce qu'on veut qu'on teste, s'assurer que la personne apprenne le français avant de venir. Si elle échoue, il n'a pas bougé, il reste chez...
Mais comme disait mon invité, Hamid, mon invité Gilles Laporte, rappelait justement que il y a peut-être quelque chose de difficile à demander aux gens qui sont dans leur propre pays d'apprendre la langue ou de démontrer une connaissance assez bonne du français pour qu'on puisse... Par exemple,
Gilles,
tu rappelais que
l'intégration, ça se fait pas à distance.
Ouais.
L'intégration, ça se fait au milieu de la communauté. On intègre pour rien que la langue, parce que la langue, c'est un vecteur qui nous amène vers les valeurs. Fait qu'on apprend tranquillement le hockey, on apprend à faire du pâté chinois, mais c'est pas en faisant des tests sur Internet. On se comprend. Ça peut être fait en duo. l'immigrant a tout intérêt à se préparer avant.
Et il y a plein de Sud-Américains qui sont au Québec aujourd'hui et qui parlaient pas forcément, mais qui apprennent rapidement cette langue parce qu'elle est près. C'est une langue latine, donc le français, l'espagnol, ça, c'est tellement facile. Et qui, au bout de 6 mois, moi j'en ai rencontré des immigrants là qui venaient là de Bolivie, du Chili, de bref d'Amérique du Sud, et qui parlent aujourd'hui très bien avec un léger accent qui est tellement doux à l'oreille, mais donc, ces immigrants-là n'auraient pas pu venir.
Non, ben c'est ça. Ça serait de donner, à ce moment-là, un avantage à certains pays du monde, par exemple, où là, ils parlent français déjà. Donc, et c'est pas nécessairement ce qu'on souhaite non plus.
C'est ce qu'on fait, d'ailleurs, en ce moment.
Ben, c'est ce qu'on fait en ce moment avec la grille de sélection, absolument, la grille de sélection actuelle qu'on a au Québec, qui fait en sorte que on accueille, je le dis souvent, on accueille beaucoup, beaucoup des travailleurs qui sont très qualifiés. Et beaucoup de nos immigrants, en fait, 1 sur 2 est surqualifié par rapport aux emplois qui sont disponibles. Dans les régions du Québec, ce qu'on a besoin en ce moment, là, la plupart des postes qui sont affichés et qui ne trouvent pas preneur, ce sont des postes très peu qualifiés. Mmh. Donc, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Puis, mon collègue a raison de dire qu'il faut miser sur l'intégration des personnes, amener les personnes, justement, en région, les franciser, leur donner des cours de francisation, les informer, justement, sur, effectivement, les valeurs, les droits, les obligations, et parce que ça aussi, ça en fait partie.
Vous avez peut-être vu les libéraux et Dominique Anglade, entre autres, qui trouvaient que c'était épouvantable ce qu'on demandait, ce que le gouvernement de la CAQ demandait, évidemment, en disant... Puis elle présentait d'ailleurs une dame, je pense, d'origine belge, qui était ici, qui faisait partie des 18 000 dossiers non traités, qui était inquiète et qui est ici depuis longtemps, qui est doctorante. Et Mme Anglade disait, regardez, c'est ce genre d'immigrants qu'on ne veut pas. La dame va avoir un doctorat et tout. Puis je me disais, tout le débat autour de l'immigrant... économique, c'est-à-dire celui qui vient pour finalement répondre à un besoin d'emploi. On l'a dit, là, c'est pas forcément des gens qui ont des doctorats dont on a besoin. Mais
ben, c'est
là,
ça. Faut pas créer des faux espoirs non plus. Faut arrêter de créer des faux espoirs. On a fait venir des gens. On a un système d'immigration qui est très élitiste. On a fait venir des gens ici en leur disant, venez-vous-en, il y a de l'emploi, il y a de l'emploi. Puis quand ils arrivent ici, ils se rendent compte que finalement, l'emploi qu'il y a, c'est d'aller emballer des salades ou aller attraper des poulets chez un éleveur. Donc, c'est comme ça. Il y a comme une dichotomie, une coupure entre.
Mais je pense qu'il faut être honnête aussi.
Il faut être honnête avec ces gens. Là, ben oui, tout à fait.
On a Isabelle avec nous. Bonjour Isabelle, vous en pensez quoi, vous, des valeurs québécoises que devrait posséder tout bon immigrant? On leur dit quoi aux immigrants?
Ben, on leur dit se comprendre de notre mieux ici, des valeurs qu'on connaît de liberté, d'égalité, de fraternité. Mais ça, là, ça reste du brossage de nuages. Que ça prend, là, c'est du concret. Fait que la liberté, sous la liberté, ça peut sous-entendre plein de choses. Mais il faudrait dire un exemple au niveau politique, économique, financier ou social, les voir un après l'autre, ces points-là, puis dire un exemple concret. Une femme peut voter différemment de son mari. Une femme peut elle décider d'aller où elle veut sans demander la permission à son mari.
Ouais.
Ça, c'est du concret. C'est ce que j'aimerais, moi, dans une charte de la laïcité, d'ailleurs. Leur expliquer que ici l'État est séparé du religieux. Ça fait partie des valeurs, de mes valeurs, mais des valeurs de beaucoup de Québécois. Puis moi, c'est bien sûr que j'aimerais que ça soit respecté, ça. J'ouvre une parenthèse, je peux pas être d'accord quand on travaille pour l'État, puisque l'État est séparé du religieux, que l'employé qui travaille pour l'État affiche des croyances religieuses au détriment de ma laïcité, ça me choque. Je me dis, qu'est-ce que l'immigrant est prêt à faire, quel pas il est prêt à faire pour la laïcité?
Et que quand ce sont, et Isabelle, quand ce sont, je trouve ça vraiment intéressant la façon dont vous le formulez, mais qu'est-ce que vous répondez à ces, par exemple, ces musulmans, parce qu'on parle de ça, qui portent le voile, ces musulmanes qui portent le voile, mais qui sont québécoises et qui se sont converties? Est-ce que, dans ce cas-ci, vous...
Je leur réponds la même chose. Je leur dis, n'en demande pas moins que c'est un État laïque ici. Et puis toi, qu'est-ce que tu es prête à faire pour vivre dans cet État laïque et respecter les valeurs de ceux qui y croient? Parce que ça devient comme une gifle pour moi à chaque fois, là, quand j'entends je vais être obligé de perdre ma job ou changer de job parce que je porte le voile. Je me dis, la laïcité est où là-dedans? Il semblerait qu'il y a beaucoup de gens qui suivent M. Legault dans son objectif de laïcité.
Merci.
Justement. Merci. Là, vous voulez pas parler de politique. Je vais donner d'autres exemples. Une femme peut est libre de ses mouvements au niveau politique. Comme je sais pas si je me répète là, mais elle peut voter différemment de son mari. Mm-hmm. Elle peut choisir d'avoir son propre compte en banque. Tu sais, il faut que tout ça soit nommé, incluant les droits des enfants. Comment, tu sais, leur poser des questions sur. On ne bat pas une femme ou on ne bat pas un enfant ici. C'est tout ça, c'est du concret.
Mais ça, comment... C'est bon, c'est tout ce que vous avez mis, c'est très bon, je trouve, Isabelle, mais comment on gère ça? Est-ce qu'on va demander à un immigrant... C'est sûr qu'il va nous dire non, là. Est-ce que vous battez votre femme chez vous? Mais non, il ne dira pas qu'il batte sa femme. Est-ce que ça veut dire qu'il ne battra pas sa femme ici? Puis là-dessus, sur la violence conjugale, je pense qu'on n'a pas non plus de leçons à donner à personne. Parce que, je veux dire, il y a des Québécois « pure laine », entre guillemets, qui battent leur femme aussi.
C'est pas une raison pour pas le rappeler.
Non, d'accord. Mais tu comprends?
Bien sûr.
Mais on peut dire, battre sa femme, c'est pas une valeur québécoise.
Nous donnons pas la mesure de ce que l'immigrant doit atteindre.
Mais on peut pas, non, mais en même temps, Gilles, on peut pas leur demander d'être meilleurs que nous-mêmes. Tu comprends? C'est comme si on demandait à l'immigrant une virginité incroyable.
C'est-à-dire que moi, je pense qu'on a la responsabilité. On a la responsabilité d'informer, d'éduquer les gens sur quelles sont nos valeurs québécoises, comment les droits ici, les droits et responsabilités en tout genre, là, les droits et responsabilités et obligations en matière de citoyenneté, en matière au niveau citoyen, au niveau marital, au niveau en tant qu'employeur, travailleur, etc.
L'égalité homme-femme, c'est intéressant.
Tout à fait, mais il n'y a pas juste l'égalité homme-femme, il y a aussi toute la question de la non-discrimination en tout genre, là, selon la couleur, selon l'orientation sexuelle, selon etc. Là. Fait que je pense qu'on a la responsabilité d'informer, d'éduquer les personnes qui arrivent ici sur, effectivement, quels sont les codes de vie, les chartes, les droits, les lois, tout ça qu'on a ici.
Amine disait tout à l'heure, ce sont des valeurs universelles. L'égalité homme-femme, c'est universel.
Ben, ça l'est pas universel, c'est pas vrai. Je veux dire, c'est...
On a Madeleine, une autre Madeleine. Bonjour, Madeleine.
Bonjour.
On vous écoute?
Moi, merci. Alors, moi, mon point de vue primordial, là, c'est l'égalité des hommes et des femmes. Ça, a priori, on doit nécessairement arriver ici et avoir ça en tête. Et puis, un autre petit point que je veux mentionner aussi, quand on parle pour le voile et les emplois, ce ne sont pas nous qui les congédions, mais c'est plutôt les personnes elles-mêmes qui ne se conforment pas à la loi. Et ça, c'est important. Ça, si on part avec, disons, ces prémices-là, je pense que ça devrait bien aller.
Merci beaucoup, Madeleine. Michel, bonjour.
Bonjour, Isabelle. Moi, c'est un sujet qui me touche très fort. Et ce que je veux ajouter à ce qui a été dit présentement, c'est que ce qui est important pour moi à ce niveau-là, c'est le respect de nos coutumes, de notre façon de vivre, de notre patrimoine, le respect de nos lois. En d'autres mots, essayer de simplement se rendre compte qu'on est un pays qui a été toujours un pays d'accueil. On est multiethnique, mais en général, les gens s'intègrent assez bien. Et on est d'accord pour que les gens intègrent notre milieu de vie et non pas essayer de le transformer et de nous assimiler ou de nous considérer comme des gens de moindre capacité intellectuelle et de connaissances. Souvent, ce qu'on entend, c'est qu'on nous traite, moi, je suis une personne âgée, on nous traite souvent dans certains milieux comme des gens qui ne connaissent rien. On essaie de nous éduquer, même de comment se servir d'une clé de serrure, comme exemple. Alors, ça, moi, je suis pas d'accord et je pense que dans notre société québécoise, entre autres, j'ai voyagé, mais j'ai pas vécu dans d'autres pays. À l'université, j'ai fait un cours qui s'appelait Femmes, vie privée, rapport de sexe. Et j'ai été surprise de savoir que dans les campagnes un peu partout, il y avait beaucoup d'abus face à la femme. Et qu'on ne la respectait pas bien. On a travaillé très fort pour être rendu où on est maintenant, à plein de niveaux au Québec. Et il y a toujours eu de la place pour tout le monde, mais si on nous enlève notre propre place, notre propre identité, pour essayer de recréer ce qu'on avait ailleurs ici...
Là, vous ne voulez pas reculer. Je comprends ce que vous dites, Madeleine. Vous voulez pas reculer. Effectivement. Merci beaucoup. On va à la pause. Amit, bonjour. On vous écoute sur les valeurs québécoises.
Oui, bonjour, madame. Ça fait presque 11 ans que je suis à Québec ici, là. Et je donne, par exemple, moi, la première des choses, madame Isabelle, là, il faut donner la parole aux immigrants pour qu'ils parlent. On n'entend jamais dans les médias. Ils n'ont pas de place dans les médias nulle part. Ils n'ont pas d'émission nulle part. Ils n'ont rien. C'est pour ça qu'il faut donner premièrement la valeur, donner les paroles à ces immigrants pour qu'ils parlent, qu'ils discutent, qu'ils disent qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils font. Parce que le monde dit, OK, il faut vraiment être égalité homme-femme. Le monde qui vient ici à Québec, Madame Isabelle, mm-hmm. tout le monde sont des diplômés, OK? Le monde sont bien éduqués avec vraiment des diplômes haut qualifiés. Mm-hmm. C'est-à-dire mm-hmm. qu'ils savent où ils vont aller. Ils savent c'est quoi les valeurs mm-hmm. du Canada, c'est quoi les valeurs du Québec, c'est quoi tout ça, ils le connaissent.
Mm-hmm. Donc,
Madame Isabelle,
mm-hmm.
alors ça là, ce n'est pas des bébés, ce n'est pas des ignorants, mm-hmm. ce n'est pas des ignorants qui viennent ici.
Ouais. Mais quand vous dites, Amir, excusez-moi, quand vous dites, par exemple, les immigrants n'ont rien, ils n'ont pas d'émission, ils n'ont pas la parole.
Regardez, madame, vous avez toutes les radios du Québec. Regardez, même, on va aller jusqu'au loin. Les radios communautaires, c'est toutes des Québécois de souche qui tiennent ces radios communautaires.
Mais écoutez-moi, sincèrement, là-dessus, Hamid, je dois être en désaccord avec vous. Il y a beaucoup d'émissions à la radio. Il y a des chaînes haïtiennes, par exemple. Après, il faut s'en occuper, c'est sûr, mais je pense que au niveau de l'interculturalisme ou du multiculturalisme, il y a quand même beaucoup de choses qui se font ici. Parce que c'est aussi raide de dire qu'il n'y a rien que de dire tout le monde a tout. Comprenez? Je pense que
Je vous dis une chose. Est-ce que TVA, chez vous et tout, est-ce qu'il y a des missions spécialisées pour les immigrants? Il n'y a rien. Parce que toutes vous êtes une radio, écoutez.
Mais je ne vais pas prendre la défense de Québécois voilà. plus qu'il faut, mais il y a Ami Télé, oui, qui est une télévision communautaire. Quand vous allez sur Illico, vous ouvrez ça, puis vous tombez là-dessus de facto. Oui, et moi, je vous avoue, souvent, là, je tombe sur des émissions où il y a une représentativité très, très forte des immigrants. Après, est-ce qu'on en voudrait plus? Sans doute, si t'es immigrant, tu veux voir plus de gens qui te... Mais en même temps... Faut regarder au prorata de la population. Il reste que le Québec est majoritairement composé de Québécois blancs. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Alors, c'est sûr que
c'est ça. Puis il y a une réalité économique pour les médias hein, aussi qui doivent aller chercher du public, de l'audimat. Donc,
mais je pense que là, ça change aussi. Je pense qu'il y a de plus en plus de place. Il y a des régions.
Il y a une diversité. Il y a des chaînes aussi qui, on voit, il y a des présentateurs, par exemple, présentateurs, présentatrices, de plus en plus de diversité. Puis c'est une très, très bonne chose. Je pense que ça continue d'évoluer. Mais
je trouve ça injuste de dire qu'il n'y a rien.
Oui, puis il y a Radio Centre-Ville, tu sais. Radio Multilingue.
Cet équilibre-là, il faut le rechercher. Mais c'est à propos de l'usage du mot immigrant. Est-ce qu'on est immigrant toute sa vie? Il vient un temps où nous sommes intégrés et celui qui est ressortissant des Caraïbes ou de l'Afrique du Nord, il est, jusqu'à un certain point, québécois. À un moment donné, il n'a pas à prendre la parole à titre d'immigrant. Cette identité-là, il peut la vivre personnellement, mais lorsqu'il s'adresse à la cité, au monde, il ne s'adresse pas « je suis immigrant ».
Oui, mais ça, il faudrait le dire à certains Québécois, par exemple, Gilles. Parce que pour certains Québécois, t'es jamais, jamais vraiment Québécois.
Absolument.
Il suffit que t'aies un accent...
Est là à énumérer nos valeurs et un peu de modestie. Nous sommes une culture minoritaire, hautement minoritaire en Amérique du Nord. Le fait français, là, on y adhère, nous, évidemment, de naissance, mais il demeure que c'est un choix qu'on demande à faire aux immigrants. Là. Acceptez-vous de vous intégrer à une minorité ethnique? C'est tout un défi qu'on leur demande. Il faut bien saisir la gravité de la demande qu'on leur adresse.
Okay? Vous ne savez pas, mais vous arrivez dans un pays...
Si vous allez en Algérie, allez-vous apprendre l'arabe ou le kabyle? Si vous arrivez en mm-hmm. Suisse, allez-vous apprendre l'allemand ou le romanche? Mm-hmm. Nous, on leur demande de parler une langue minoritaire. Acceptons la hauteur du défi qu'on leur demande et de s'intégrer à cette culture-là. C'est un travail de vis-à-vis. Vous savez, j'aime bien dire qu'intégrer un immigrant, c'est pas comme faire un expresso avec de la vapeur sous pression. C'est plus comme une tisane ou une tasse de thé. Il faut laisser le temps d'infuser. Et pour que l'infusion soit réussie, il faut que l'eau soit chaude, accueillante et douce.
Ouais. Mon Dieu, c'est une belle allégorie.
Ben oui, tout à fait. Puis chacun a sa part hein, dans la confection de ce thé-là, du cueilleur jusqu'à l'infuseur au bout de la ligne, jusqu'à celui qui fabrique la bouilloire, dans le sens où on a beaucoup parlé de test des valeurs, de francisation et tout ça. Moi, je pense que dans les communautés, chacun a une part à faire. Les employeurs en ont une, mais les communautés d'accueil en ont aussi. Les groupes communautaires en ont une part aussi. Le gouvernement en a une part.
As-tu le droit de choisir du thé de chai ou du thé Earl Grey? T'sais, ou du thé noir. Ou... Ça, faut voir parce que le problème, en fait, c'est ça. Moi, je pense que le plus gros problème qu'on a, puis je suis pas sûre que le projet de loi qui a été déposé cette semaine va le régler, là, c'est qu'on avait un mauvais casting de notre immigration par rapport aux besoins du marché du travail. Puis pour s'intégrer, là, une des clés de l'intégration, c'est de pouvoir participer à la société dans laquelle qui t'accueille, donc d'avoir un emploi. Et malheureusement, le projet de loi qu'on nous a présenté ne réglera pas toutes ces questions-là. On va avoir encore beaucoup de travail à faire. Pas en avant, par exemple.
Pour toi, oui.
Oui, oui, c'est un pas en avant, carrément.
Indéniable.
Oui.
Indéniable, le Québec se rend compte qu'il a un mot à dire, qu'il a un rôle à jouer.
Oui, oui. C'est un pas en avant, mais c'est pas la panacée. C'est pas le remède miracle.
C'est sûr. Hey, on a trouvé dans cette pratique examen de citoyenneté canadienne, on a trouvé une erreur. Parce qu'on demande quel est le portrait sur le billet de 10$. Et là, on allait répondre McDonald's. Mais non, depuis novembre dernier, c'est
Viola Desmond.
Voilà. Comme quoi qu'il n'est jamais trop tard pour corriger les questions.
Exactement.
Hein, tu vois, là aussi.
C'est une femme en plus.
Merci beaucoup, Gilles Laporte. Oui, merci beaucoup, Martine Hébert.
Merci à vous.